Bonjour à toutes et à tous. Alors si vous permettez, d'abord j'ai pris le rapport avec moi. C'est un rapport donc, qui fait 240 pages sans les annexes. Et les annexes sont composées de l'ensemble des auditions que nous avons réalisées, c'est-à-dire plus d'une trentaine d'auditions. D'abord, je voudrais vous dire préalablement que ce rapport, nous l'avons fait pour restituer dans la mémoire nationale, dans le récit national, vos vies, vos parcours, votre arrivée en France, la façon dont vous avez été accueillis ou pas, la manière dont la République a permise ou pas de vous loger, de vous considérer comme des personnes à part entière, et que ce rapport n'est là que pour d'abord vous rendre justice et rendre justice à tout ce que vous avez fait pour notre pays. Et à ce que vous avez apporté, d'abord, nous le savons, votre force de travail, parce que tous les Chibanis, tous les immigrés âgés qui sont venus pour travailler. Ils ont travaillé dans l'industrie, ils ont travaillé dans le bâtiment public, ils ont travaillé dans les mines, ils ont travaillé comme travailleurs agricoles, ils ont travaillé dans l'industrie automobile, ils ont fait, parfois certains, ont fait tous les métiers qu'on peut exercer dans ces années 50-60 qui ont été, vous le savez, les années de la reconstruction puis les années de l'industrialisation de la France. Et je crois que c'était important pour nous, élus de la République, de vous rendre cet hommage et de vous rendre cette reconnaissance et de vous dire déjà, pour commencer, merci pour ce que vous avez fait, merci d'avoir permis à notre pays de se reconstruire puis d'être devenue une grande nation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour démarrer, parce que c'est vraiment l'état d'esprit qui nous a animés. Au-delà des 82 propositions qui sont le fruit de ce travail, je voulais vous dire que ce qui nous a d'abord animés, c'est cette volonté de réhabiliter la place que vous méritez dans l'histoire nationale, avant, et je dirais en attendant, d'améliorer concrètement les conditions de vie, les conditions de logement, les conditions d'accès aux droits qui sont aujourd'hui les vôtres et qui, trop longtemps et encore aujourd'hui, sont empreintes de difficultés, de tracasseries et parfois même, disons-le, de discrimination. Donc, ce propos liminaire étant fait, je remercie tout d'abord Bruno Arbouet et ses équipes, Monsieur Bergerot et Madame Neva, qui nous accueillent aujourd'hui ici à Argenteuil, car je dois le dire, le rôle d'Adoma, c'est un rôle qui n'est pas facile, car vous êtes entre le marteau et l'enclume. L'enclume, si je peux prendre cette image, ce sont évidemment les résidents qui ont des exigences légitimes en termes de fonctionnement des foyers, en termes d'entretien, de propreté, de service aussi, de présence humaine. Pas seulement le gardien, le technicien, mais aussi avoir des médiateurs, avoir des intervenants extérieurs. Et je suis sûr que ici, vous êtes un foyer exemplaire, une résidence sociale. Vous êtes devenu une résidence sociale. Mais évidemment, et Bruno Arbouet l'a reconnu, il y a des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps et qui ne l'ont pas été. Et donc, nous, les parlementaires, avec le marteau de la mission d'information, nous avons aussi tapé là où ça fait mal. Nous avons pointé du doigt ces foyers qui existent encore aujourd'hui dans notre pays, par centaines, où il existe encore des immigrés, âgés ou non, qui sont logés dans des chambres de 7 mètres carrés et demi, sans douche, sans cuisine, sans autonomie. Et parfois depuis 40, voire plus. Et nous savons bien que ce n'est pas forcément l'équipe actuelle d'Adoma qui est responsable de cette situation. Néanmoins, c'est elle qui en a aujourd'hui la responsabilité. Et elle a la responsabilité de sortir par le haut, c'est-à-dire de faire disparaître les chambres de 7 mètres et demi carrés, comme on a fait disparaître, monsieur le directeur, et vous me l'avez confirmé, des chambres plus petites qui ont existé. 4 mètres et demi. C'est comme ça qu'on a accueilli ces immigrés âgés dans les années 50 et 60. Aussi, nous portons, nous, je salue monsieur le maire, le député maire, Philippe Doucet, et les élus présents, Chantal Collin et Pascal Daubigny et les autres, parce que vous savez, parce que Argenteuil est porteur de cette histoire, quelle est la responsabilité qui est la nôtre. Et que longtemps, longtemps, la France a refusé d'assumer. Car quand on est invisible, on n'est pas seulement invisible parce qu'on est discret et pudique, ce qui est le cas de ces immigrés âgés, qui n'ont jamais, jamais, jamais voulu mettre la France devant ses responsabilités, qui ont fait preuve, qui ont subi, qui ont supporté, qui ont travaillé, tout simplement parce qu'ils avaient aussi des responsabilités. Certains étaient chargés de famille en France, ont fondé des familles en France, d'autres envoyaient de l'argent au pays, beaucoup. Et donc, ils ne pensaient qu'à travailler, travailler, travailler pour gagner leur vie, pour envoyer l'argent au pays ou pour faire vivre la famille ici. Et donc, ils n'ont pas pensé à eux, ils n'ont pas pensé à leur situation et à ce qu'ils ont subi. Et donc, ils ont été invisibles parce qu'eux-mêmes ne se sont pas montrés, mais aussi parce que pendant longtemps, trop longtemps, la République, les institutions ont fait comme s'ils n'existaient pas. Et d'ailleurs, souvent, ces foyers ont été installés dans des banlieues, en dehors des agglomérations, et à l'intérieur des banlieues, je pourrais en parler, souvent dans les coins, non pas dans les centres-villes, les foyers ne sont pas dans le centre-ville de Colombes, ils ne sont pas dans le centre-ville de Gennevilliers, ils sont souvent dans la périphérie, et c'est la, je sais que c'est la même chose à Argenteuil, quand ils n'ont pas été placés, ça a été dit tout à l'heure, au milieu de, d'infrastructures routières ou autres. Et donc c'est évident que nous ne faisons que, au fond, remettre à la lumière un sujet qui aurait dû être traité depuis longtemps. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur, sur la situation de ces 800 000 personnes de plus de 55 ans et 350 000 de plus de 65 ans. On a aujourd'hui des situations d'urgence à traiter. Je crois que c'est celle des foyers de travailleurs, et Bruno Arbouet l'a dit, il y a des choses qui sont déjà engagées par Adoma. Nous souhaitons qu'elles s'accélèrent, notamment la transformation de ces, des anciens foyers en de nouvelles résidences sociales ou des réhabilitations profondes. Nous souhaitons également, c'est l'objet d'un certain nombre de propositions dans le rapport, que les conditions de vie à l'intérieur de ces foyers soient améliorées, qu'il y ait par exemple un respect plus scrupuleux dans les règlements intérieurs de la vie privée et familiale, qu'il y ait des espaces collectifs maintenus, notamment dans le cadre des rénovations, pour qu'ils puissent, que les immigrés qui souhaitent avoir des activités, se rencontrer, discuter, ou jouer aux cartes, ou je ne sais quoi, puissent le faire. Également, qu'ils puissent avoir, au sein de comités de résidents, qui auront, nous le souhaitons, un véritable statut, un lieu de, d'échange permanent entre les représentants des résidents et Adoma en tant que bailleur. Et donc nous avons toute une réflexion qui est dans le rapport, qui est dans les propositions du rapport autour non seulement de la reconstruction des foyers, des bâtiments, mais ça a été très bien dit par Philippe Doucet, ça n'est pas suffisant, mais aussi sur le fonctionnement, les services et notamment tout ce qui peut intéresser des personnes qui sont aujourd'hui pour certains déjà à la retraite ou sur le point de l'être, et qui ont besoin effectivement d'un accompagnement, par exemple sur le plan sanitaire et médical, qui ont besoin de médiation aussi quand il s'agit de faire leur démarche administrative. Et là-dessus, ça sera ma transition avec le deuxième point. Nous allons faire le maximum pour simplifier la vie des immigrés âgés dans leur démarche, notamment les démarches en direction des préfectures. La première chose, et je vous l'annonce parce que il y a déjà eu une circulaire du ministre de l'Intérieur Manuel Valls qui est arrivée en préfecture la semaine dernière, avant même que le rapport soit rendu public, mais parce que le rapport existe et parce que le rapporteur que je suis avait écrit à Manuel Valls il y a plusieurs mois déjà. Le titre de séjour de 10 ans, pour ceux qui ont ce titre de séjour, et je sais que beaucoup l'ont, c'est le dernier titre que vous aurez. Au prochain renouvellement, vous aurez une carte de résident permanent à vie. Vous n'aurez plus jamais besoin, à partir de maintenant, de retourner en préfecture pour renouveler le titre de séjour, parce qu'on considère qu'à partir de 60 ans et quand vous avez déjà fait deux renouvellements, on doit vous délivrer de façon définitive une carte de résident à vie. Vous êtes partie prenante de ce pays et vous n'aurez plus à devoir re-remplir chaque année les papiers, donner les justificatifs de domicile et payer le timbre aussi qui, en plus, dont le coût a augmenté ces dernières années. Voilà, ça c'est une première mesure concrète. Quand vous irez en préfecture, ici c'est la préfecture du Val d'Oise, vous aurez droit, et je pense même qu'on va essayer de faire en sorte que cette carte ne soit pas délivrée à expiration, mais même en cours de validité, et ça je le vérifierai auprès du ministère de l'Intérieur. Mais voilà, ça c'est une mesure concrète qui était dans le rapport, qui va être mise en œuvre dès le prochain renouvellement, et de, que je tenais à vous annoncer, parce que je sais qu'elle concerne nombre d'entre vous qui ont déjà renouvelé plusieurs fois leur titre de 10 ans. La deuxième chose, c'est que au-delà du titre de séjour, il y a aussi un certain nombre d'entre vous, et nous l'avons entendu dans la mission, qui souhaitent, parce qu'ils sont là depuis très longtemps et qui se sentent à la fois de là-bas et d'ici, qui se sentent marocains, algériens, tunisiens, maliens, sénégalais, mais aussi français, parce que quand on vit 30 ou 40 ans dans un pays, on y construit des liens, on y a des racines, on y est attaché. On se sent quelque part français, même si on n'a pas la carte d'identité qui va avec. Eh bien moi, nous allons mettre en œuvre une simplification de la naturalisation pour ceux qui voudront obtenir la carte d'identité française. Et il y en a. Ce ne sera pas une obligation. Évidemment, on n'impose pas une nationalité à quelqu'un. Ceux qui voudront la carte de résident permanent prendront la carte de résident permanent. Ceux qui voudront la nationalité française, je prends l'engagement qu'ils puissent y accéder dans un délai de 6 à 12 mois maximum, et pas, comme c'est le cas aujourd'hui, avoir des refus. On a beaucoup de Chibani qui nous ont dit on nous a refusé la nationalité française parce qu'on avait des revenus trop petits. Et on a des revenus trop petits parce que vous avez parfois pas toujours été déclaré par vos employeurs, parce que vous avez toujours été dans les salaires les plus bas dans tous les métiers que vous avez exercés, et parce qu'en plus, vous avez souvent été dans les entreprises, quand il y avait des plans sociaux, les premiers touchés par le chômage. Et donc oui, les Chibani, les immigrés âgés, ont eu des carrières professionnelles plus complexes, plus difficiles, moins linéaires que celles des salariés français à l'époque. Et donc ça explique qu'aujourd'hui, le montant moyen de la pension des immigrés âgés, c'est 700 euros, quand le montant moyen d'une pension d'un retraité français, c'est plus de 1000 euros. Donc il y a, vous le voyez, sur le plan des pensions, une situation. Et c'est, moi je trouve, injuste d'opposer à celles et ceux qui auraient voulu devenir français, mais je prends cet exemple là, mais il y a eu aussi d'autres tracasseries administratives. Souvent les immigrés âgés ne comprennent pas toujours pourquoi le dossier a été refusé, on leur demande des pièces, on leur demande des justificatifs. Tout ça, il faut que ça cesse. Pour ceux qui sont là depuis 30, 40 ans voire plus, ils ont droit, s'ils le souhaitent, à faire partie à part entière de la communauté nationale, et en tout cas c'est dans le rapport écrit de façon extrêmement claire. Et soyez certains que auprès du ministère de l'Intérieur et dans les préfectures, parce que c'est surtout dans les préfectures que tout ça se passe maintenant, parce que les dossiers d'instruction de la naturalisation ont été décentralisés, déconcentrés depuis 2010, et donc on sait que c'est au niveau des préfectures qu'il faut que les choses se passent. D'ailleurs, nous avons demandé également sur cette question précise de l'accueil en préfecture que dans un certain nombre de départements les plus concernés, là où les immigrés âgés sont présents et en nombre, il puisse y avoir des guichets dédiés à vos démarches administratives pour que vous puissiez avoir des personnes formées, capables de vous répondre et pas simplement de vous jeter à la figure qui vous manque tel ou tel papier, qui vous manque tel ou tel justificatif, et que vous ayez un accueil qui soit digne de ce que vous êtes et qui soit digne de la République. Sur la question maintenant de l'accès aux droits, je l'ai dit, il y a cette question du titre de séjour sur lesquels nous avons fait des propositions fortes. Il y a aussi la question de la retraite et des droits sociaux d'une manière générale. Certains d'entre vous, du fait qu'ils ont une petite pension, pourraient bénéficier de l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Autrement dit, quelqu'un qui a une pension de 400 euros, donc qui a cotisé, mais qui a cotisé dans le contexte que j'ai dit, c'est-à-dire des petits salaires, des carrières difficiles, parfois des emplois non déclarés, a droit, dans notre pays, et c'est le cas pour les immigrés âgés comme pour tout retraité, à un complément de retraite qui peut aller jusqu'à 1 000 euros. Donc c'est l'association de solidarité pour les personnes âgées qui est une retraite en fait complémentaire à la retraite cotisée quand on n'a pas eu des durées de cotisation suffisantes ou des niveaux de cotisation suffisants. Aujourd'hui, on sait, c'est peut-être moins le cas des gens dans les foyers qui se parlent, qui se connaissent et qui peuvent se passer des informations, mais il y a des immigrés âgés qui sont plus isolés, qui vivent dans des logements privés, qui vivent parfois aussi dans des hôtels meublés, encore ça peut arriver, et qui ne bénéficient pas de l'ASPA. Et donc nous avons tout un volet pour permettre à ceux qui ont droit de bénéficier de cette retraite complémentaire et ainsi d'augmenter de façon substantielle leurs revenus. Et je dirai un mot après de ceux qui bénéficient de l'ASPA et qui voudraient retourner définitivement au pays et qui aujourd'hui ne le peuvent pas parce que vous le savez, pour bénéficier de l'ASPA, il y a une condition de résidence qui est de 6 mois et 1 jour. On a également des problèmes de seuil au niveau de l'assurance maladie. Assurance maladie complémentaire, CMU, CMUC. Il y a un effet de seuil entre la CMU complémentaire et le niveau des revenus. Souvent, les immigrés âgés qui ont des retraites autour de 700 euros sont juste en deçà du seuil d'accès à la CMU complémentaire. Là encore, nous avons demandé à la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Tourelle, de réexaminer ces effets de seuil pour que ceux qui vivent avec des petites pensions ou avec des petites pensions et un complément liés à l'ASPA ne soient pas, je dirais, ne subissent pas ces effets de seuil et ne se retrouvent pas dans la situation de ne pas pouvoir se soigner ou de se soigner dans des conditions difficiles à cause de ce déficit de couverture maladie. Et je dois le dire, la commission a malheureusement constaté que beaucoup d'immigrés âgés n'avaient pas de médecin traitant, que en moyenne, par rapport à un retraité français, le retraité immigré âgé consulte 5 fois moins le médecin qu'un retraité français, et pas seulement d'ailleurs pour des raisons financières, parfois aussi pour des raisons culturelles. Et finalement, il y a aussi dans notre rapport cette idée que c'est au moment où on arrive à un certain âge qu'on a besoin justement d'être correctement soigné. Je pense que beaucoup, pour la plupart d'entre vous, si on faisait un état de la situation, vous n'avez pas beaucoup utilisé la sécurité sociale pendant toute votre vie, parce qu'on le sait, vous étiez des durs à cuire, vous étiez durs au mal, il fallait travailler parce qu'il fallait faire rentrer l'argent pour la famille, pour le pays. Et donc on sait bien que contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là, vous n'avez pas été ceux qui ont pesé sur les comptes sociaux. Bien au contraire, vous avez cotisé à travers votre travail, à travers vos salaires, vous avez été ceux qui avaient probablement le plus cotisé, ratio, utilisation des assurances sociales, des sécurités sociales et cotisations. Je pense que les populations immigrées d'une manière générale sont ceux probablement qui bénéficient le moins et qui cotisent le plus en proportion. En tout cas, sur les immigrés âgés, c'est une évidence. C'est pourquoi nous travaillons avec, nous allons demander à la sécurité sociale de faire un travail particulier pour faire en sorte que vous puissiez bénéficier de l'intégralité de vos droits, tant sur le plan de la retraite que sur le plan de l'assurance, des assurances sociales et de la sécurité sociale. Mon dernier point, mes derniers points. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que certains bénéficient évidemment déjà de l'ASPA du fait de la faible pension de retraite dont ils bénéficient. Mais on sait aussi que si la retraite cotisée, contributive, elle est exportable, et d'ailleurs aujourd'hui en Algérie, il y a 450 000 Algériens qui touchent une retraite cotisée en France, versée en Algérie et 60 000 Marocains, il y a aujourd'hui des immigrés âgés qui ont une très petite retraite contributive qui touche l'ASPA, mais s'ils partent au pays définitivement, plus de 6 mois, ils perdent la qualité de résident dans notre pays et ils ne pourront plus bénéficier de l'ASPA. Et donc ils n'auront que leur retraite cotisée, dont j'ai indiqué que souvent les montants étaient faibles. À partir de ce moment-là, il y avait déjà eu, il y a quelques années, un gouvernement qui s'était préoccupé de cette question. C'était à l'époque de Jacques Chirac. Il y avait eu le vote de la loi Dalo avec des articles 58-59 qui prévoyaient, sous certaines conditions, que les immigrés âgés de plus de 65 ans, célibataires, résidents depuis plus de 15 ans et habitant dans un foyer de travailleurs migrants pourraient, s'ils souhaitaient retourner dans leur pays, bénéficier du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'équivalent de l'ASPA. C'est ce qui avait été appelé dans la loi une aide à la réinstallation familiale et sociale dans le pays d'origine. Cette loi a été votée le 6 mars 2007. Malheureusement, 6 ans après, le constat que nous avons fait en tant que parlementaires en mission, c'est que jamais les décrets n'ont été publiés. Jamais cette mesure, pourtant annoncée à l'époque par Jean-Louis Borloo avec une certaine force, comme une mesure de réparation, il disait « mes frères les Chibadi », il le dit encore d'ailleurs, n'a jamais été suivie d'effet. Et donc, nous nous sommes interrogés pour savoir pourquoi. Je ne vous ferai pas le feuilleton du cheminement de cette non-mise en œuvre d'une mesure qui avait été pourtant annoncée avec force en 2007. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Et c'est notre capacité, nous, les parlementaires et le gouvernement, à mettre en œuvre désormais cette mesure qui pourrait concerner entre 15 et 20 000 personnes, quand même. C'est pas tous les immigrés âgés, mais ça représente quand même un nombre significatif de personnes. Et donc, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, nous a indiqué qu'avant la fin de l'année, elle souhaitait que les décrets soient publiés. Et donc, si les décrets sont publiés, celles et ceux qui veulent retourner une plus grande partie de l'année au pays pourront bénéficier de cette aide qui sera versée même s'ils retournent vivre, quel que soit le pays d'ailleurs d'origine. Cette aide sera versée comme l'est d'ailleurs la retraite contributive dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire que vous aurez droit au même droit que si vous restiez ici. Et on le sait, c'est une question qui a été évoquée plusieurs fois dans les travaux de notre mission. Et je crois que, en tout cas, j'espère que nous trouverons pour la fin de l'année une solution. Bon, il y a encore évidemment quelques problèmes juridiques. On ne met pas comme ça en œuvre une mesure qui concerne 15 ou 20 000 personnes du jour au lendemain. Mais le gouvernement a annoncé sa volonté. Et nous, parlementaires, serons vigilants pour et attentifs à la mise en œuvre des mesures préconisées dans le rapport. Ce sera mon dernier mot, si vous le permettez. Le titre du rapport, titre que nous avons choisi, mais que j'ai proposé aux membres de la mission, et le rapport a été, ça a été dit, adopté à l'unanimité des membres de la mission parlementaire qui représente la diversité de l'Assemblée nationale, je tiens à le préciser. Le titre du rapport, donc, c'est « Une vieillesse digne pour les immigrés âgés, un défi à relever en urgence ». J'ai tenu à ce que le mot « urgence » figure dans le titre du rapport. Non pas que je sois particulièrement pessimiste et que je suis sûr que dans notre honorable assemblée il y aura des centenaires et que donc vous bénéficierez à moyen et long terme des mesures que nous mettrons en œuvre. Mais quand même, il y a ici des personnes qui ont déjà un âge avancé. Et je crois qu'on leur doit, en raison de leur parcours, je l'ai dit tout à l'heure, en raison de leur situation aujourd'hui, et ils sont nombreux à vouloir vieillir dans notre pays, ils nous l'ont dit, la majorité des immigrés âgés se sentent d'ici et de là-bas, mais ils veulent rester vivre une retraite ici pour la plupart. Et donc, il est question pour nous d'aller vite. Je l'ai dit à propos de la carte de résident permanent, elle est déjà, elle sera disponible là dans les prochains renouvellements en préfecture. Je l'ai dit également à propos des mesures qui concernent l'accès aux droits. Nous l'avons dit avec Adoma à propos du plan de traitement que nous souhaitons accélérer et sur lequel il faut trouver les moyens de mobiliser, y compris les fonds nécessaires à son achèvement. Mais cette urgence pour nous, c'est aujourd'hui de ne pas laisser le sujet retomber dans l'ombre comme il l'a été trop longtemps. Et donc pour moi, je l'ai dit hier quand j'ai remis le rapport à Claude Bartolone, pour moi, mais je crois que c'est l'état d'esprit de tous les parlementaires, et en tout cas je suis persuadé que c'est l'état d'esprit de Philippe, ces 82 propositions, c'est notre feuille de route à nous tous parlementaires de la 14e législature. Nous tous, ils ont été validés à l'unanimité, nous tous parce que c'est en étant attentifs, en étant mobilisés, en profitant de chaque loi, de chaque occasion, d'améliorer par des mesures concrètes votre vie quotidienne, parce que vous le méritez, parce que nous vous le devons. Et voilà, je voulais vous remercier d'être là, et croyez que nous sommes mobilisés et que nous ne laisserons pas ce rapport prendre la place dans une poussière, prendre la place dans une étagère et prendre la poussière. pour nous, c'est un guide pour l'action dans les mois et les années à venir. Je vous remercie de votre attention.